déambulation.
Alors là, on est dans les soubassements du monastère. En fait, c'est des grandes caves, hein, c'est d'anciennes grandes caves voûtées.
Samuel Catio, le 22 juin 2022, ancien monastère de Sainte-Croix.
Donc ici, on est dans une salle qui s'appelle la salle de l'âne, qui a été rénovée. Il faut savoir que l'ancien monastère est géré par une société coopérative, et donc avec un ensemble de bénévoles, de woofers, et puis de permanents. Et donc petit à petit, ils rénovent le lieu, hein, pour le faire vivre. Ils accueillent en fait des gens du monde entier, hein, donc on peut y dormir, on peut y manger, et il y a des activités, des événements, et des résidences d'artistes également. Et puis c'est vrai que c'est un lieu assez calme qui donne sur le jardin. Et puis pour décrire le reste du monastère, on est sur un peu un fronton, enfin on domine la vallée de la Drôme, hein, en fait, ici. Donc on le voit, le monastère, quand on arrive de la départementale depuis Cré, en allant sur Die. Et c'est un monastère qui est là, dans les écrits, je crois, depuis le XIe siècle. Alors moi, je suis donc chanteur contre-ténor, contre-ténor et baryton. Donc j'ai une voix, en fait, j'ai une voix plutôt lyrique, on va dire, une voix de chant classique. Donc la voix du contre-ténor, en fait, c'est l'équivalent de la voix de la soprane ou de l'alti chez les femmes, pour ceux qui font du chant et qui ont l'habitude des chœurs. Donc je suis chanteur, compositeur, interprète. Tout le monde peut avoir une voix aiguë, une voix grave, peut exercer ces deux registres de sa voix. Après, dans notre société, on a des identités sociales qui font qu'un homme a plutôt une voix grave et une femme une voix plutôt aiguë. Alors qu'en fait, on a aussi dans le répertoire des femmes qui vont aller chanter dans les graves, on parle de contralto à ce moment-là. Et donc contre-ténor, c'est plutôt l'appellation anglaise de la musique baroque anglaise. Voilà. Mais globalement, on est dans le même registre de voix, qui est une voix relativement aiguë. J'ai fait en fait des études d'abord en art appliqué, j'ai eu une partie de ma carrière dans le design, et en parallèle j'ai toujours travaillé la voix, j'ai toujours travaillé le chant, j'ai découvert ma voix vers 13-14 ans, et puis ensuite ben, à l'adolescence il peut y avoir la mue pour ce genre de voix qui peut descendre dans les graves. Il se trouve que moi je me suis rendu compte que ma voix de contre-ténor était là, et donc j'ai eu envie de la travailler. Donc dans mon parcours j'ai rencontré un certain nombre de professeurs de chant, et notamment certains qui avaient des méthodes un peu, on va dire, atypiques pour travailler la voix, qui m'ont permis vraiment d'explorer cet instrument. Même certains professeurs qui m'ont dit, avec la voix que tu as, tu n'as pas le droit de pas chanter, en fait. Voilà, donc quand on entend ça, on peut résister, mais ça marche pas longtemps. On était déjà dans des spécificités, hein. Tous les conservatoires n'ont pas une classe de musique ancienne pour le Moyen Âge. Et puis c'est pas une musique qui est, elle a été redécouverte aussi ces dernières décennies, mais c'est pas la musique qui a été la plus diffusée en fait et la plus promue. Et je crois que j'ai toujours eu une attirance pour ça, pour des mélodies qui nous touchent en fait, qui vont vraiment toucher quelque chose qui, je pense, est ancestral, qui est commun à tous. C'est comme si on avait un espèce de bien commun musical, une bibliothèque sonore commune, et c'est ça qui m'a intéressé. Donc, j'exerce aujourd'hui le métier que j'aurais pas imaginé faire. Si on m'avait dit plus tard tu seras musicien professionnel, c'est peut-être le dernier métier que j'aurais imaginé. Et puis ça m'a rattrapé en fait en travaillant ça avec le goût et le plaisir que je pouvais avoir et surtout les rencontres. En fait, c'est surtout les rencontres qu'on fait sur notre chemin et des gens qui nous confortent dans le fait que bah, on a des choix qui sont peut-être judicieux.
Tu as une démarche de recherche, de partition notamment, de texte aussi. Enfin, déjà, en quoi consiste cette démarche, le fait de rechercher des partitions d'une certaine époque, et est-ce que c'est courant ou commun quand on s'intéresse à une époque donnée dans le chant, d'aussi passer du temps dans des bibliothèques pour en chercher de cette époque-là.
Alors, moi, je m'intéresse presque plus aux textes qu'aux partitions écrites. Parce que c'est vraiment la tradition orale qui m'intéresse, la transmission orale. Il faut savoir qu'il y a à peu près 95% de la musique dans le monde qui n'est pas écrite, qui est de transmission orale. Et beaucoup de ce qu'on a dans la musique classique est issu aussi de la transmission orale. Et donc, j'ai repris des études au conservatoire ensuite après les études que j'avais faites en design. Et c'est vrai que là, j'ai découvert un monde assez structuré, puisqu'on a, on a des compositeurs d'un côté, des interprètes de l'autre, des chercheurs. Et c'est vrai que j'ai un certain goût pour prendre des chemins de traverse. Voilà, ça, je pense que c'est de nature.
Du coup, ce que tu recherches en termes de documents, est-ce que ça va être spécifiquement peut-être des paroles de chansons ou même pas? Et c'est plutôt si tu te documentes sur une époque pour nourrir une pratique de la musique ensuite?
Alors, je travaille de plus en plus par thématique. Là, aujourd'hui, c'est le jardin. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est tous les traités de botanique. C'est des écrits de poètes autour du jardin, des écrits de musiciens. Donc c'est toujours finalement de nourrir ma bibliothèque personnelle pour avoir suffisamment de matière ensuite pour la création. Donc là-haut, voilà, il y a le jardin qui est là-haut. Le jardin des plantes domine l'ancien monastère. Et c'est quand j'ai découvert ce lieu en fait, que j'ai eu envie de faire la résidence ici pour ce projet. Et on a 350 variétés de plantes, je pense. Non, c'est pas un grand jardin botanique, mais c'est déjà, voilà, on a déjà un exemple de ce qu'on peut avoir comme plantes ici dans la région et tout ce qui était plantes médicinales qui était utilisé par les moines.
C'est un jardin qui date de quelle époque ?
Alors celui-ci, il est récent, il a été refait, remis en place en 2000. On a les plantes médicinales qui sont classées par symptômes et par pathologie, en fait. Comme à l'époque au Moyen-Âge, où il y avait effectivement une organisation en fait, des différentes parcelles du jardin pour les différentes maladies.
Je suis venue avec un projet dans cet ancien monastère qui s'appelle le Jardin Imaginaire. L'idée, c'est justement de faire le lien entre des jardins botaniques médiévaux et la musique. En quoi ça consiste exactement ?
Le point de départ, c'est que le jardin m'a toujours accompagné depuis que je suis enfant. Moi, je suis originaire du nord de la France. Il y a une particularité, il y a des jardins ouvriers, en fait, beaucoup de jardins ouvriers. Donc ça, c'est des lieux que je fréquentais. Et de là, ça m'a toujours accompagné. J'ai toujours profité aussi dans mes voyages d'aller visiter des jardins botaniques. Le rapport au végétal, je pense que c'est quelque chose qui me questionne aussi, parce qu'il y a une intelligence du végétal qu'on ne soupçonne pas, une interdépendance par rapport aux plantes. Et voilà, ça a été un peu le point de départ. Et ça faisait un moment que j'avais envie de faire le lien avec la musique, de me dire, mais c'est pas deux mondes séparés. Surtout que y a le jardin, puis il y a la nature. Donc là, on est dans le son aussi, on est dans la musique, on a les oiseaux, on a tout. Et puis, la période de confinement, pour certains, nous a rapprochés un peu de nos jardins. Donc j'ai passé beaucoup de temps au jardin au printemps 2020, qui a été magnifique, en plus, pour les jardins. Et c'est là où je me suis rendu compte. Je me suis dit, finalement, quand je compose, mon travail de composition, il se fait souvent dans la nature. J'adore marcher. Je pars dans la montagne et souvent, ça se déclenche directement, les mélodies viennent. Il y a vraiment tout un processus qui se met en place. Je me suis dit, ça peut être intéressant de l'exploiter, d'en parler, de le partager. Et il me fallait un lieu pour ça. Et comme je suis arrivé, moi, dans le Diwa l'été dernier, donc l'été 2021, bon, je suis dans la Drôme depuis une vingtaine d'années, mais c'est une région, le Haut Diwa, que j'aime bien et où j'avais envie de m'installer. Et j'avais envie de trouver un lieu qui était proche de mon lieu de résidence. Et j'avais découvert le monastère de Sainte-Croix, l'ancien monastère, il y a à peu près une dizaine d'années. J'avais vu le jardin et voilà, ça a fait le lien. Je suis venu rencontrer l'équipe ici au monastère. J'ai vu le jardin de plantes médicinales et puis les carrés de plantes qui reconstituent un peu le jardin médiéval. Et le lien à la musique, dans toutes les recherches que je fais dans les manuscrits, on a des enluminures, on a des partitions parfois à noter, on a des textes, des traités sur le médicaux ou sur la pharmacopée. Et ces enluminures, ces couleurs, ces propos sur le végétal ont fait le lien directement pour moi pour la musique. Je me suis dit, les plantes ont des propriétés, elles ont aussi une musicalité. Alors ici on est devant le carré des sauges, donc on a des sauges différentes, en plus il y en a certaines qui sont en fleurs en ce moment. On fait un petit voyage aussi parce qu'il y a des sauges qu'on trouve ici, puis il y en a qui sont plus exotiques, qui viennent d'autres pays et puis qui ont été importées.
Quand tu parles de carrés, c'est des carrés qui sont délimités par des petits massifs de buis,
par des petits massifs
ce
de
qui
buis.
Donne une odeur au jardin qui est assez caractéristique des monastères finalement.
Oui, ouais, tout à fait. Et là-bas, on a le carré qui s'appelle le carré des Antonins, où ils ont reconstitué en fait les plantes qui étaient utilisées justement par ces moines pour soigner le feu des ardents. Donc moi, je suis pas un connaisseur, mais en tout cas, on voit qu'il y a même des plantes qu'on pourrait appeler des mauvaises herbes en fait. Mais ça, c'est un mot qu'il faut enlever de notre vocabulaire parce qu'il y a du trèfle, il y a effectivement du liseron, du plantain. Donc tout ça, c'est des choses dans le jardin. On va dire, oh, on l'arrache, alors qu'en fait, c'est des plantes magnifiques qui peuvent soigner plein de choses quand on les connaît. Ce qui est difficile après dans un jardin botanique, c'est de canaliser un peu, parce que la nature, elle veut toujours s'étendre. Et les menthes, c'est pareil. Alors ici, ils utilisent les menthes, ils les mettent dans des grands pots, justement, parce que sinon, avec les racines, elles vont toutes se mélanger. Donc si on veut différencier les différentes espèces. Hier, on s'est fait un très bon thé avec la menthe marocaine, par exemple. C'était très bien avant notre répétition. On a fait un beau morceau de musique. On peut les toucher, on peut les sentir. Puis les odeurs, quoi. Toutes les odeurs différentes de menthe. Il y en a certaines qui sont poivrées, il y en a certaines qui sont plus amères aussi au goût. Et là, par rapport à la musique, par exemple, quand on est dans les fragrances, là, quand on sent certaines plantes, c'est clair que moi, j'imagine une composition plutôt qu'une autre. Il y en a qui vont être, on va dire, complètement frénétiques et d'autres extrêmement calmes. Donc voilà, alors est-ce que la verveine va faire une musique calme? Ça, c'est la question. Mais les lavandes, c'est pareil, les lavandes, c'est quelque chose d'assez frais. Donc on peut imaginer aussi peut-être des musiques et des compositions un peu plus légères. Il y a même une lavande qui est magnifique là-bas au bout, c'est la lavande d'Afghanistan, qui n'est pas vraiment une lavande en fait. Et elles ont toutes des odeurs différentes. Chaque variété de lavande a vraiment ses spécificités. Après, il y a quelque chose de complètement entêtant. Ça aussi, ça peut jouer au niveau musical. On peut imaginer sur une composition ou à un moment qu'on parte dans quelque chose d'un peu orchestral ou d'un peu symphonique. Voilà.
Alors, entêtant.
Voilà. On a tous les insectes aussi qui en ce moment gravitent autour de ces plantes, que ce soit les bourdons, que ce soit les abeilles, d'autres insectes dont j'ai oublié le nom mais qui sont rouges et bleutés là, qui sont très très beaux et qui apprécient particulièrement la lavande actuellement.
Ouais. Ouais, ouais.
Et aujourd'hui, on est dans la première session musicale. Donc voilà, on passe 3 jours avec les musiciens, avec Michel Godard, qui est un joueur de serpent, et puis avec Iyab Radouane, qui est joueur de oud, pour explorer ce répertoire. Donc moi, j'ai amené des textes, j'ai amené des poésies, j'ai amené des idées, des propositions de mélodies. Et puis eux, pareil, ils s'imprègnent petit à petit du projet pour qu'on travaille en commun. Et donc le processus créatif, ça a été c'est vraiment le principe de la résidence de création. On vient se poser dans un lieu, on va dire, qui est relativement neutre. On le connaît peu, nous trois qui sommes là. Et puis on se prend vraiment un temps où c'est dédié à la musique. On se met dans de bonnes conditions. Donc là, tout est important, le lieu, la nourriture, le sommeil. Et donc, il y a un processus comme ça de partage, d'improvisation, de proposition de mélodie ou de structure. Et petit à petit, on construit.
Vous êtes en résidence jusqu'en octobre, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et vous avez décidé finalement, d'une certaine manière, de l'ouvrir, puisque vous allez accueillir des jeunes, des enfants d'écoles élémentaires du coin. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que vous allez faire avec eux?
Alors, effectivement, ça m'intéresse, moi, de partager ce processus créatif parce que c'est une grande joie pour nous, déjà musiciens, de vivre ça. C'est des choses que les gens n'ont pas forcément l'habitude de côtoyer, sauf s'ils sont dans des familles de musiciens. Et avec ce qu'on a vécu depuis 2 ans, j'ai été conforté dans le fait que c'est important qu'on partage ça, qu'on partage des moments qui sont quand même une nourriture pour moi qui est essentielle, qui est vraiment l'art, la musique, la littérature. Donc la résidence, elle se déroule en plusieurs parties. Moi, je viens régulièrement, seul et puis pour rencontrer des gens ici. Iyab et Michel donc m'ont rejoint là pour cette session de printemps-été et ils vont me rejoindre de nouveau à l'automne, septembre-octobre. avait encore un peu de temps, mais ça, ah, ça, ouais. Ça peut être ça. Et
donc, tu veux faire encore le même camp cet été ?
Non, ça va, tu peux basculer. À ce
alors regarde, c'est toi qui me donne la scène.
Ouais, ok. Et donc en septembre-octobre, oui, j'ai eu envie de proposer aux écoles du DIWA de venir partager, découvrir un peu ce que peut être le processus de création. Donc de les inviter au monastère aussi pour qu'ils découvrent ce lieu, qui est vraiment un lieu ouvert, et de faire une visite qui va être autant botanique qu'acoustique et musicale. Voilà, donc ça c'est des ateliers que je propose aux enseignants avec les élèves de venir au monastère. Donc ça, ce sera à la mi-septembre de cette année, pour une semaine, et puis une deuxième semaine où je propose, vu qu'il y a un festival ici dans le monastère, on ne pourra pas accueillir ici sur la troisième semaine de septembre, et donc j'irai dans les écoles aussi pour partager avec les enfants ce travail et ce processus, et aussi je propose en fait qu'on crée des portraits sensibles, c'est-à-dire qu'on se présente chacun, mais pas avec notre nom, notre prénom et puis nos origines et notre famille, mais plutôt avec nos affinités, avec ce qu'on va aimer comme musique, comme couleur, comme senteur, comme forme. Et à partir de ça, montrer qu'on peut aussi, c'est une base de création. Avec ça, l'exercice, c'est de montrer qu'à partir d'un portrait comme ça, moi j'ai des bases en fait pour composer une musique, pour composer une mélodie, et c'est ce que je vais proposer avec les enfants, qu'on travaille ça ensemble. Et puis un temps qui va être aussi important, c'est quand on revient en résidence avec les musiciens, on proposera trois rencontres en fait sur une journée, trois ateliers où ils vont pouvoir écouter la musique, voir comment on travaille ensemble et découvrir les instruments au sein du monastère avec l'acoustique particulière qu'on a ici.
Est-ce que tu peux me dire comment est-ce qu'on te contacte et comment on trouve des informations sur ce projet?
Alors il y a un site donc qui est mon site en fait, qui est samuelcatiau.com, hein, c'est samuelcatiau CATIAU.com. Là on peut me contacter.
Donc tu as également d'autres projets que ce projet de résidence, puisque tu proposes un concert le 28 juillet ici à l'ancien monastère de Sainte-Croix. Ça s'appelle Résonance et tu le présentes comme un projet qui a commencé il y a 10 ans dans la Drôme. De quoi il s'agit exactement ?
Alors Résonance, c'est un projet qui a été en partie créé dans la Drôme. Après, lors de mes voyages, en fait, c'est un projet que je mène avec le guitariste et compositeur Quentin Dujardin, qui est en Belgique, et qui lui aussi a un parcours classique, mais aussi jazz et musique du monde. Et on a une passion commune pour le patrimoine, pour les vieilles pierres, pour les lieux anciens et les acoustiques particulières. Et on a créé ce projet donc avec un premier album qui s'intitule Résonance, et un deuxième qui est sorti, Illumination. Et c'est ce répertoire qu'on va venir présenter donc à l'ancien monastère, dans la cour de l'ancien monastère cet été, avec également Mathieu Saglio, qui est un violoncelliste français mais qui réside en Espagne et qui a introduit le violoncelle dans la musique flamenco. Donc Résonance, c'est aussi on associe en fait des couleurs et des musiques différentes, musique d'Europe, donc sur des textes anciens mais avec des compositions originales, hein, donc tout le répertoire est recomposé. Donc en vieux français, en anglais, en italien, en espagnol, on fait un petit voyage en Europe pour faire découvrir des textes anciens mais avec une musicalité qui est moderne, voilà. Et puis ensuite on a d'autres concerts en France, en Espagne, donc c'est un projet qui tourne, oui, depuis pas mal d'années et qui continue. On va préparer la suite voilà, j'avais envie qu'on puisse le présenter ici dans la région, dans la Drôme.
Quelques informations pratiques peut-être ? Prix, l'heure, comment on s'inscrit ?
Alors pour le concert, donc le concert est le 28 juillet et je crois que c'est à 21h. On s'inscrit pareil en contactant l'ancien monastère de Sainte-Croix, donc il y a le site de l'ancien monastère qu'on va trouver sur internet avec le numéro de téléphone aussi, on peut appeler pour s'inscrire. Au niveau des tarifs de mémoire, on est sur un tarif plein à 15€, tarif réduit à 8€. Et il y aura, je pense, aussi de la restauration sur place, donc si les gens veulent venir avant le concert pour découvrir le lieu.
Merci.
Merci.